de un Ismaël au Kassai oriental. J'ai repris totalement cette
histoire. Moi, c'est l'une de nos combattants au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être des nôtres dans cette nouvelle production de Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce des sanctions pour les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire. Théophile Béba l'a fait savoir au cours de la rencontre avec la communauté étudiantine la semaine dernière à l'Institut supérieur de commerce. L'autorité des tutelles estime qu'il est temps de combattre la pratique de branchement. Le phénomène manque, disons, des disparitions des cotes, l'organisation des ordonnées du troisième cycle et la politisation des universités et autres mots qui ternissent l'image du secteur. Quel regard portez-vous sur cette décision? Nous en parlons. Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Guy Mandangou est à la technique, Faisa Julie Bongonda et Pierrot Enlamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente qualité d'écoute à toutes et à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service. Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Monsieur J.R., bonjour à tous les milliers d'auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, vous avez suivi l'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce des sanctions pour les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire, en évoquant bien entendu quelques mots qui ternissent l'image du secteur, entre autres la corruption qui, en fait, marche très bien sous les labels de la pratique branchement, le phénomène disparition des cotes lors des sessions, et puis l'organisation des ordonnées du troisième cycle, et ajouter à cela la politisation de sites universitaires et autres mots, voilà, qui ternissent pratiquement l'image de l'enseignement supérieur universitaire. Alors, quel regard portez-vous sur cette décision?
C'est salutaire, cette décision du ministre de l'Enseignement. C'est un vœu que nous souhaitions nous tous. Il faudrait que ces milliers d'universités soient assainis, puisque nous assistons maintenant à une dégradation du niveau intellectuel des Congolais, puisque l'enseignement n'est pas bien organisé au niveau de l'université. Comme il parle de la population, effectivement, il faut être membre d'un certain parti politique, ou soit un étudiant qui est membre d'un certain parti politique, ou soit un professeur, on lui donne beaucoup de cours, on les considère, et les cours, les points, on les lui donne comme il se doit. C'est-à-dire sans fournir aucun effort. Et si vous êtes de jauger le niveau de cette étudiant-là, c'est nul. J'avais été responsable de ce pas, mais pour une demande d'emploi écrite par un étudiant, il y a plus de 100 fautes. Alors, nous, je me suis posé la question. Il a fait quelles études d'abord? Primaire, secondaire et quelles études universitaires? Et c'est un étudiant de Nino. Hormis à l'état de cela, M. J.R., il y a aussi le problème des syllabus. Ça, la correction est institutionnalisée sur les milieux universitaires. C'est-à-dire qu'il y a un préalable. Pour avoir 5 points, il faut acheter un syllabus. Et les professeurs et les étudiants, tous, sont responsables de cette dégradation de l'enseignement. Je trouve que la mesure prise par le ministre ne doit pas être complaisante. Elle doit souffrir d'aucune faille. Il faudrait que cette mesure soit appliquée avec beaucoup de rigueur. Et à l'état aussi de cela, monsieur J.R., il y a aussi les codes sexuellement transmissibles. Il suffit que vous soyez universitaire, vous avez un professeur qui vous encadre, c'est-à-dire que vous êtes appelé à faire 5 sur 5, sans aucune notion. Sans aucune notion, M. J.R., c'est explique la dégradation du niveau intellectuel. Hormis cela, il y a des travailleurs qui, eux, ne se présentent pas au cours, mais ils sont inscrits comme étudiants à l'université. Ils travaillent dans des institutions bancaires, des institutions financières, C'est-à-dire qu'eux, ils se présentent que le jour des interrogations. Ils n'ont pas le temps de présenter les suspects, ils n'ont rien. Ils savent qu'à la fin de l'année, ils vont donner ce aux doyens, 200, 300 dollars, 400 dollars, et ils passent de classe. Hormis cela encore, monsieur Gilles, il y a maintenant ce système-là, quand vous êtes en train, vous êtes peut-être à la merci d'un certain service de sécurité non apparent, là on vous passe, on vous donne aussi le soin, comme si c'était dans une boulangerie là où on peut permettre à chacun de décorter un pain ou quelque chose. C'est-à-dire que le ministre, moi j'aimerais le ministre puisse agir avec beaucoup de rigueur, sanctionner ceux qui sont sanctionnables et même révoquer certains professeurs, même certains étudiants qui n'ont pas même le niveau de certificat d'université. Parce que l'université n'est pas appelée à tout le monde. Il faut, nous avons vécu un autre temps, nous faisons des tâches. Pour être admis à l'université, il a fallu que vous puissiez avoir 60% pour être admis à l'université. Et nous étions admis à l'université sur base d'un test. On avait évalué notre niveau d'études. Donc, nous avons eu la chance d'apprendre au collège du Mara. Nous avons un bon niveau d'études. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de discussion. On savait qu'on savait sélectionner les étudiants. Vous comprenez un peu le sujet. Et de l'autre côté aussi, je souhaiterais demander aussi au ministre, il ne suffit pas seulement d'attaquer, d'assainir et de finir. Il faudrait que le gouvernement puisse aussi améliorer les conditions d'études des étudiants. Les conditions d'enseignement pour les enseignants de l'université. Amener aussi leur salaire. Parce qu'il y a beaucoup de entre en ligne de compte pour ce qui est de la dégradation de nos niveaux universitaires.
Voilà, Maître Sauville, restez un peu en ligne parce que là vous avez évoqué l'aspect dégradation de l'enseignement supérieur et universitaire en insistant sur un aspect de point que nous avons souhaité débattre aujourd'hui. Vous avez mis un accent pointillé sur la politisation du secteur. Aujourd'hui, la réussite dans un cursus normal à l'université est conditionnée à l'appartenance à un parti politique. Donc comme pour être élevé au rang de directeur général ou encore directeur de l'institut supérieur ou université, il faut appartenir clairement à un parti politique ou encore à une plateforme politique. Alors ces comportements ou cette condition, c'est tant même au niveau des étudiants. Alors ce qui est déplorable pour vous, vous souhaiterez qu'on puisse revenir quand même à l'ancien système, hein, où pour donner quand même de la valeur, vous avez donné quelques préalables d'accompagnement, notamment l'amélioration des conditions salariales ou des conditions de vie des enseignants, des professeurs qui ont des charges horaires au niveau de l'université. Et la préoccupation tourne autour des mesures, hein, si ces mesures seront vraiment prises en compte, parce que bon, nous avons vu des ministres par le passé qui ont défilé et qui ont pris également la même décision de pouvoir assainir les milieux, mais cela n'a pas accouché d'une souris. Et donc vous souhaiterez qu'il y ait vraiment des mesures d'accompagnement par rapport à cette décision. Merci beaucoup, Maître Sauville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Deo gracias, vous êtes en Bujimbaï. Bonjour.
Bonjour M. Villard et bonjour à tous les étudiants de la radio Capi.
Vous avez la parole. Comment commentez-vous cette décision du ministre de pouvoir sanctionner tous les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire?
Merci beaucoup Villard de m'avoir accordé la parole afin de m'exprimer. En tout cas, c'est un sujet vraiment, c'est une initiative vraiment qu'il faut encourager. Comme je l'ai soulevé dans mon message, la question reste à savoir, est-ce que les ministres vont aller au bout? Parce que nous sommes toujours habitués à ce genre de choses. On peut soulever une initiative comme ça, après, si on poursuit au fond, il n'y a pas de réalité. Alors, ce que nous constatons dans les milieux universitaires, ce n'est pas seulement la multiplicité des universités, mais c'est l'organisation qui sont autour des universités qui pose problème. Tiens. Vous pouvez trouver dans une université comme ça pour qu'un étudiant puisse passer la promotion, pour qu'il puisse retrouver ses codes seulement s'il a donné les droits d'auteur. Seulement si l'étudiant là, il est de même privé avec tel enseignant ou tel autre. Et ces pratiques là se traduisent souvent par les assistants et les chefs de travaux. Un professeur n'a pas de problème. Un professeur peut venir comme ça, il donne son cours et il va donner le cours aux assistants. Quant aux assistants aussi, pour donner les codes aux étudiants, c'est tout à fait un problème. Vous vous rendez compte d'un assistant?
Vidéo gracias. On doit quand même évoluer. Pour vous, quels sont les préalables pour pouvoir accompagner cette décision, pour qu'on arrive quand même à une décision qui pourrait aider le secteur à avancer?
Bon, il faut évoquer tous les recteurs, évoquer tous les communautés de la République, et puis...
Est-ce que c'est un problème d'hommes? C'est un problème d'hommes qui sont à la tête des instituts supérieurs et universitaires, ou c'est un problème de système?
C'est un problème, c'est pas un problème de ceux qui dorment, c'est pas ce problème-là, c'est un problème des enseignants. Les recteurs ou les communautés de gestion n'est pas au courant de ce qui se passe dans le auditoire ou bien dans les campus. C'est le problème d'évoquer les enseignants et les professeurs, les maîtres, donc organiser un comité de suivi. Le ministre peut organiser un comité de suivi pour commencer à poursuivre tous ces actes-là pour combattre la dégradation des liens universitaires.
Voilà, on va voir peut-être, parce qu'à l'époque, lorsque les professeurs et encore d'autres corps scientifiques se sont retrouvés à Zongo pour réfléchir un peu sur la modification de la loi cadre de l'enseignement, il a été dit par rapport à toutes les instructions ou l'instruction académique qu'on publie chaque année, qu'il était question dans les jours à venir de pouvoir penser à installer donc un conseil supérieur de l'enseignement supérieur universitaire qui sera un cadre au fait pour régler tous les problèmes relatifs à l'enseignement du milieu universitaire. Merci beaucoup, Déo Gracias, d'avoir appelé de Mbujimayi. Patrick, vous êtes à Goma. Bonjour. Voilà, Patrick, vous êtes à Londres plutôt. Vous êtes à Londres, en Angleterre.
Oui, je suis à Londres, oui.
Voilà, merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé de l'extérieur du pays. Vous avez la parole. Vous avez suivi l'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a pris la décision de pouvoir sanctionner tous les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire qui en fait, connaît aujourd'hui des difficultés et aussi qui fait face à plusieurs maux qui ternissent par votre image, leurs images. Voilà, notamment la corruption qui évolue sous les labels de la pratique des branchements, par exemple, et puis la disparition, le phénomène de disparition des cotes des étudiants, et il faut compter aussi la politisation du milieu. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette décision?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Radio Capi. Félicitations surtout pour le genre de programme. Je venais juste de suivre notre programme sur l'entrepreneuriat. Vraiment, je vous encourage à aller dans cette direction.
Merci.
Alors, pour revenir au programme de l'éducation, il s'est bien établi partout dans le monde qu'il y a une relation directe entre le développement d'un pays et le niveau et la qualité de l'éducation qu'on donne à ses citoyens. Le gouvernement congolais n'a qu'à prendre ses responsabilités. L'éducation ne doit pas être une marchandise qui ne peut être acquise que par les riches. L'éducation, c'est un bien commun que l'État, tout État responsable, a l'obligation de pouvoir à ses citoyens pour préparer un avenir pour tout le monde. Et donc, qu'on puisse parler de la corruption ou du trafic de l'autre, tout ça pour moi, ce sont des conséquences de ce manque de responsabilité première de la part du gouvernement. Le gouvernement doit prendre l'éducation en charge. Le gouvernement doit pouvoir l'infrastructure de base du système éducatif. Le gouvernement doit prendre soin non seulement des enseignants et des professeurs, mais aussi s'assurer que les conditions minimales requises pour que tout enfant congolais puisse aller à l'école et dans des conditions convenables soient faites. C'est un lieu de dire dans d'autres domaines, pas de l'éducation le marché. Monsieur le journaliste, je vous résume, nous parlons d'un Congo qui est en train de grandir, eh bien, la croissance ne va pas se faire d'une manière durable si l'État ne prend pas en charge l'éducation. Je suis que dès que l'État investit, et j'ai demandé vraiment, quel est le pourcentage du budget de l'État qui est en l'éducation? Regardez le budget qui a été publié par le Premier ministre. Quel est le pourcentage qu'on a attribué à l'éducation? Et comment voulez-vous que les professeurs puissent enseigner dans le ventre vide et vous pensez qu'ils peuvent être honnêtes?
Non, ce n'est pas possible.
Voilà.
Je voudrais que nous soyons réalistes. Pour l'État congolais, merci, il y a des problèmes économiques, on nous parle des macro-systèmes qui sont en train de dire au Congo. Très bien, c'est une éducation. Mais alors, continuez, investissez dans l'éducation. Le reste va suivre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Patrick Ngoï, d'avoir appelé de Londres à l'Angleterre et surtout d'avoir contribué à cette émission, rappelant qu'il y a une relation directe entre le développement d'une nation ou d'un pays avec la qualité de l'éducation qu'on donne à sa population. Alors le gouvernement doit apprendre, doit normalement prendre en compte donc sa responsabilité par rapport à cette question, car l'éducation c'est un bien commun. Il faudrait que l'État qui a la gestion au quotidien de la chose publique doit avoir l'obligation donc de préparer l'avenir sa population au travers de cette éducation. Donc le manque de responsabilité de la part du gouvernement aura comme conséquence donc que la population ne sera pas bien éduquée et la croissance durable n'aura pas lieu. Merci beaucoup Patrick Ngoï d'avoir appelé de Londres et surtout en ce moment nous profitons pour dire faire un coucou à tous ceux qui nous suivent sur le net, www.radiocapi.net. Merci beaucoup. Alors madame Liliane, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà, vous êtes à Kinshasa, quel est votre point de vue par rapport à cette décision?
Voilà, d'abord nous saluons cette décision, c'est une décision vraiment salutaire pour le secteur de l'éducation. On dit de par le monde entier que la qualité d'une nation dépend de la qualité de sa ressource humaine, donc de sa population. Vraiment, la décision est la très bonne. Mais nous avons un point de vue contraire par rapport à cette décision, à sa mise en œuvre, c'est-à-dire à l'application. Il faudrait que le gouvernement ait d'abord une politique nationale sur l'éducation nationale. Je me souviens encore, dans le bon temps, il y avait une planification. Quelles sont les ressources qui vont sortir, par exemple, l'année 2016? Qu'est-ce que nous aurons comme licenciés, comme diplômés de l'école secondaire, diplômés de 6 ans et au niveau même maternel? Mais il n'y a plus cette politique-là. Il y a aussi un grand besoin que le gouvernement doit remplir, c'est celui de pouvoir faire un état, on appelle ça les états généraux de l'éducation. À organiser les états généraux de l'éducation pour épingler le réellement le problème qui se pose dans ce secteur-là. C'est bien de prendre des décisions au bureau, je ne sais pas moi, au niveau politique, mais si on n'a pas vraiment les contenus de problèmes qui sont dans le secteur, ça vient aussi à notre problème. Donc, nous recommandons à ce que le gouvernement puisse organiser les états généraux de l'éducation. Et à ce moment-là, il va avoir un tableau,
un état des lieux,
de fait qui se passe là-dedans. Et dans la mise en application de décisions, il doit faire une sorte de caréva ou je ne sais pas moi, de code de bonne conduite sur lequel on peut avoir les indicateurs pour pouvoir évaluer et faire le suivi. Donc, j'ai essayé un peu d'intervenir dans ce sens-là,
oui,
que cette question ne soit pas une simple décision au niveau politique.
Au niveau politique.
Mais que ce soit une matière en soi, une problématique qui doit être discutée avec tous les paramètres voulus pour que cette décision soit réellement mise en œuvre et au niveau tant national, provincial que local.
Que local. Alors, Madame Liliane, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une loi cadre de l'enseignement qui, en fait, est d'application jusqu'à aujourd'hui, qui est en vigueur. Alors, il y a une préoccupation de nombreux observateurs qui pensent que aujourd'hui, si nous avons des problèmes au niveau du secteur de l'éducation, c'est parce que l'éducation qui devait être elle a tout et un seul. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons avec l'enseignement supérieur d'une part et l'enseignement primaire de l'autre côté. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être à trois ou à quatre avec la réalisation scientifique, au lieu d'avoir une seule, un seul ministère qui englobe toute cette question. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je suis de cet avis-là, c'est vrai. C'est comme ça que dans ma grande recommandation, j'ai dit qu'il faudrait qu'on organise les états généraux de l'éducation. Parce que, M. J.R., le système même éducatif de congolais n'est pas adéquat, ne repose même plus aux normes. Il faudrait qu'on revoie ce système-là. C'est un système qui a déjà connu son temps, qui doit être
révisité.
Voilà, discuté, rénové. Donc, il faudrait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a aussi, au niveau de la gestion, le budget de l'éducation nationale. Qu'est-ce que nous avons comme budget? Et qu'est-ce qu'on peut attendre avec ce budget-là comme résultat probant pour une nation comme la nôtre, qui a une population si dense, si... grande
voilà.
Et sur cette superficie. Et même pendant qu'on parle de la décentralisation, je ne sais même pas comment ça va être. C'est
du
mélo. Donc, il y a lieu qu'on convoque les
états généraux
pour que toutes ces questions-là soient discutées là-dedans et qu'on ressorte de là avec une vraie politique. Avoir la loi, c'est bien beau.
Mais
la loi, c'est un mécanisme, je crois, d'après mon entendement, mais ça n'absorbe pas toute la question sur l'éducation nationale. Donc, j'insiste pour que
les
états généraux soient organisés afin de peindre le réel problème et de sortir de là avec
des
recommandations fortes qui seront même d'application même au niveau national et au niveau local.
Voilà, merci beaucoup Madame Liliane d'avoir participé à cette émission et surtout la contribution, vous avez un regard d'une femme par rapport à cette question et merci surtout d'avoir apporté la question et de plaider pour les états généraux. Je crois que plusieurs fois que nous avons organisé des émissions relatives à la question sur l'éducation, nous sommes revenus d'ailleurs par plusieurs fois sur cette question de l'organisation des états généraux. Je crois que les ministres des tutelles ou ceux qui ont la question disons qui ont la charge de cette question, parce que c'est une question quand même transversale qui concerne le ministère de l'éducation, celui de l'enseignement primaire et secondaire, et pourquoi pas même le ministère de l'enseignement professionnel. Donc nous allons y revenir très prochainement pour voir si c'est écrit l'alarme qui est écoutée. En attendant d'accorder la parole à Madame Joséphine qui est à Boston, on va retrouver aussi notre invité qui nous a déjà rejoint, messieurs Pierre Kassengezia, qui était directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées, 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Parole aux auditeurs se poursuit. Votre magazine d'échange citoyen, Madame Joséphine, gardez la ligne. Vous êtes à Boston aux États-Unis. On vous accordera la parole d'un moment à l'autre. Il est temps d'accueillir notre invité, Pierre Kassengezia, directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle. Bonjour, Monsieur Pierre.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, professeur, vous êtes le directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées. Lors de la dernière rencontre de la communauté estudiantine, le ministre a insisté sur les sanctions qu'il prévoit à l'endroit des personnes réfractaires, disons, qui vont s'opposer à l'assainissement du milieu universitaire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu chaque année, le ministère publie l'instruction académique pour qu'elle soit exécutée au niveau des instituts supérieurs et universitaires. Alors, on a l'impression que le fait que le ministre a pu revenir sur cette décision en rappelant encore cela, c'est comme si, bon, ces instructions ont du mal à trouver un écho favorable sur les terrains.
Bon, je pense que dire que les institutions ont du mal à trouver un écho favorable, c'est exagéré. Ce que vous pouvez dire, ça peut arriver, il faut prendre les choses cap. Alors, ce que je sache, c'est son Excellence, Monsieur le Ministre, le professeur
Benba,
a parlé de l'assainissement environnemental, moral et mental. Et j'aimerais vous dire que nous, à l'ISTA, si vous venez visiter l'ISTA, nous avions déjà commencé à le faire, même bien avant son arrivée. Mais nous avons profité du message reçu. Pour dire à notre communauté que nous devons fournir des efforts pour garder le cap pour que les choses se passent normalement.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, chaque année, il y a l'instruction académique. Qu'est-ce qu'on fait de cette instruction?
Mais les instructions sont faites pour être appliquées. Et sachez bien que quand nous appliquons les instructions, nous n'allons quand même pas venir clamer ça par les masses médias. Moi, je pense que vous êtes des journalistes, passez sur le terrain, vérifiez cas par cas, vous allez voir quand même qu'il y a des instituts quand même qui sont en train de bouger.
Alors, professeur, parce que c'est vrai, nous suivons l'actualité et nous observons également les faits. Aujourd'hui, quand on parle de la corruption, qui marche très bien sous les labels de la pratique branchement, ça vous dit quelque chose?
Bon, vous savez, je voudrais d'abord vous dire que la corruption n'est pas seulement une maladie particulière au sein de l'enseignement universitaire. C'est une maladie un peu, je peux dire, qui ronge presque toutes les structures, malheureusement, hein, toutes les structures de notre société. Mais, écoutez, nous, en ce qui nous concerne, puisque je ne peux parler que pour l'État, j'ai une responsabilité limitée. En tout cas, je peux vous dire que pour l'État, nous avions fourni beaucoup d'efforts pour diminuer la corruption. Et aujourd'hui, je peux vous dire que il y a même des enseignants qui ont été révoqués. Hein, donc, bon, je ne suis pas naïf pour dire que la corruption est au niveau zéro, mais en tout cas, par rapport au passé, la corruption a sérieusement baissé à l'ISTA.
Alors, parlons du phénomène disparition des cotes. Parce que ça, c'est vraiment le mal qui ronge également, en tout cas, le secteur. Partout, dans toutes les universités, dans tous les instituts supérieurs, on connaît ces phénomènes.
Oui, bon, c'est vrai, on connaît ce phénomène. Bon, je peux dire que ce phénomène peut avoir des origines. Ça peut être d'abord les laxismes dû au comportement des enseignants. Mais malheureusement, il y a des enseignants qui font disparaître les cotes pour pouvoir le monnayer après. Bon, nous fournissons des efforts à notre niveau. Et il y a des moments aussi, nous voyons qu'un enseignant traîne les pieds et nous prenons directement les dispositions par rapport, par exemple, à donnant à l'étudiant une cote, par exemple, de 10 ou 12 selon le cas. Et nous l'appelons dans un premier temps pour le faire remarquer que cela n'est pas nécessaire. Mais si un récidivisme, nous ne pouvons pas résister pour prendre des sanctions.
Alors, un autre problème, c'est la politisation du secteur. Comment y remédier?
Bon, écoutez, moi je pense que en rapport avec la politisation du secteur, je vais vous dire une chose. C'est vrai que les personnes qui dirigent aujourd'hui les enseignements peuvent être d'une provenance politique ou de la société civile, mais l'important, c'est de se comporter comme le sorcier quand il va à l'église. Vous savez, le sorcier, quand il va à l'église, il laisse sa sorcellerie à l'extérieur. Donc, s'il arrivait que un chef d'établissement soit d'un parti politique, mais lorsqu'il accède à l'église, il doit avoir un comportement apolitique. C'est-à-dire, il doit traiter tout le monde en tenant compte des résultats, de ce qu'ils font exactement. et il ne doit pas favoriser un certain groupe au contenu de leur coloration politique. En ce qui nous concerne, nous, ISTA, vous pouvez venir vérifier, vous allez voir, c'est comme ça que nous fonctionnons.
081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poser vos commentaires sur notre page Facebook. Madame Joséphine, vous êtes à Boston et Jean-Claude Kananga, gardez l'écoute.
Parole aux auditeurs.
Professeur Pierre Kassengezia, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'accorder également la parole à Madame Joséphine qui est à Boston et Jean-Claude Kananga. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour Radio Fatih.
Vous avez la parole. Vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont donné leur point de vue par rapport à la décision du ministre de vouloir sanctionner les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire qui aujourd'hui est gangréné par plusieurs mots, notamment la corruption qui évolue d'ailleurs sous les labels de phénomène branchement. Les élèves doivent donner de l'argent ou être dans un circuit pour qu'ils puissent réussir. Et également la politisation du milieu ajoutée à c'est là la disparition, les phénomènes de disparition des comptes, nous venons d'ailleurs de suivre, un des responsables, un des chefs d'établissement du secteur universitaire, personne de Pierre Kassengezia qui nous a éclairé là-dessus. Comment vous réagissez, Madame Joséphine?
Vous savez, quand j'ai lu le sujet d'aujourd'hui, hier, j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi. Mais le Congo avait tout. Le Congo que vous voyez là. L'enseignement avait tout. Et maintenant, il n'y a rien. Donc, je vais partir par un intervenant d'hier, là, il a dit que le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire. Le gouvernement congolais sait. Parce que ceux-là qui dirigent le Congo aujourd'hui, ils sont passés par les universités. Ok, il faut changer les systèmes. J'avais même dit au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le système d'enseignement au Congo est dépassé. Il faut changer le système. D'ailleurs, il fallait changer depuis longtemps. Nous, on a étudié à l'université au Congo. Maintenant, on a comparé, j'ai eu l'occasion même de comparer avec le système en Zambie, avec le système dans des pays, avec le système ici. Mais j'ai peur. Je vais prendre le niveau de cours, mais le nombre de cours qu'on donne, même quand tu es en économie, le cours que tu vas étudier de premier graduat jusqu'à deuxième graduat, c'est beaucoup, ça ne se fait nulle part. Il faut changer le système. Ok, je vais donner un exemple terre à terre. L'enseignement, c'est comme une femme enceinte pendant les 9 mois. Mais l'enseignement au Congo, c'est de 18 ans. Donc, on prend 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire et puis 6 ans de l'université. Et puis, l'enfant va commencer l'école à 7 ans, je crois. Donc, c'est 24 et 25 ans, tu finis avec tout. Mais pendant les 24 ans, les 18 ans, là, qu'on prend les enfants d'autrui, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Si tu es grosse, une femme grosse, elle doit manger ça, pour que l'enfant soit bien en bonne santé. Si on ne lui donne pas tout ce qu'il faut, la maman va accoucher d'un enfant, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'il faut faire, changer les systèmes. Le ministre a parlé, vous savez, moi j'aime les chiffres. Quelle est la statistique? Il nous donne même une statistique de 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Quelle qualité des étudiants? Le problème, c'est le système. Le problème, ce n'est pas l'homme. Parce que l'enfant, quand il est né, il ne connaît rien. L'étudiant, quand il vient de l'école secondaire, il ne connaît rien. Il suit le système qu'il y a. Payer les salaires des parents. Payer les salaires des parents. Comme ça, on sait, avec les salaires des parents, l'enfant va aller à l'université, les parents vont payer combien pour son enfant. Le professeur de l'université, son salaire, c'est combien? Le Congo a l'argent, parlons des chiffres. parlons des chiffres. On dit là, oh non, on a eu un étudiant à l'université, il a écrit une lettre de demande d'emploi, mais c'était catastrophique. Mais pourquoi il n'y a pas le cours de français à l'université? Parce qu'ici, aux États-Unis, il n'y a qu'une seule langue. L'enfant naît en parlant anglais. À l'université, le cours d'anglais, on doit prendre ça. Pourquoi au Congo, il y a le cours de français? Ce n'est même pas notre langue maternelle. Quelqu'un qui arrive à l'université, il n'y a pas le cours de français. Mais ça, c'est un problème. Changer le système.
Voilà, donc là, voilà.
Et puis, il ne faut pas attendre seulement venir avec des lois.
Des décisions.
Non, dépolitiser le pays. La politique est là.
Voilà.
Ce n'est pas pour les politiciens. On laisse tous les leviers.
D'autres secteurs. Voilà. Alors, c'est civil.
Dépolitiser le pays, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Madame Joséphine.
L'enseignement, c'est la famille.
Voilà.
Payer les parents. Payer les parents pour que chaque
parent assume la responsabilité. Merci beaucoup.
Changer le système.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Vous rejoignez carrément Madame Liliane, qui a appelé tout à l'heure à Kinshasa, où elle a insisté sur le changement aussi. Hein. Il faut repenser le système de l'enseignement au Congo. Et c'est vrai, il y a beaucoup de rencontres qui ont été organisées par notamment les ministres de l'enseignement primaire et secondaire. Et lorsqu'il assumait l'intérim du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, il a même organisé une rencontre à Zongo où les corps professoral également les corps scientifiques ont pu quand même réfléchir sur l'avenir de l'enseignement au Congo. Tous ont décrié quand même la dégradation de l'enseignement au Congo, mais quelles sont les thérapies à apporter pour mener à corriger ce que nous connaissons comme gangrène qui en fait des mots qui rongent le secteur. Merci beaucoup, madame. Jean-Claude, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Jean-Claude.
Oui. Moi, j'estime que... Donc, j'ai salué l'initiative du ministre, mais moi, je l'estime un peu un tout petit peu stressé parce que, de ma part, j'estime que le grand mal qui gangrène le secteur de l'éducation nationale et de l'éducation, je voulais dire, universitaire et supérieure, découle d'un certain laisser-aller de la part du pouvoir public. Pour créer des institutions universitaires et supérieures, non seulement au Congo, mais même partout au monde, il y a quand même des conditions préalables qu'il faut remplir. Mais au Congo, on assiste malheureusement à un certain désintéressement du pouvoir. On crée des institutions universitaires un peu partout. Même au village, vous trouverez des institutions sans bâtiment, sans professeur, sans bibliothèque. On ne se soucie même pas de la qualité. Avant de créer l'institution, on ne se soucie pas de la qualité de l'enseignement qui va
être diffusé aux étudiants.
Oui. Je me rappelle en 2013, si je ne m'abuse pas, il y avait une mesure qui était sortie qui avait interdit la création de nouvelles institutions à travers les pays. Malheureusement, à la rentrée académique, on a vu deux
institutions
commencer à fonctionner, agréées par le ministre.
Nous avons vu à Bandundouville deux universités.
On les prend, sans tenir compte des conditions où c'est comment. Depuis lors, il y avait un ministère de tutelle qui s'occupait de la création ou du suivi de la création des institutions supérieures. Une interrogation. Donc, le grand problème, c'est d'abord de répertorier toutes les institutions supérieures et universitaires.
Oui, il faut noter qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a toute une direction qu'on appelle direction académique qui s'occupe de cette question. Donc, je crois que notre souci, c'était d'avoir, si pas le ministre lui-même dans cette émission, ou encore un représentant du ministère. Donc, malheureusement, nos efforts sont restés vains. Mais quand cela détient, c'est pourquoi nous avons eu à contacter un de nos responsables des établissements supérieurs et universitaires, qui est notre invité aujourd'hui, c'est professeur Pierre Kassengezia, qui pourrait tenter de répondre à cette question. Merci beaucoup, Jean-Claude, de l'avoir appelé. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Professeur Pierre Kassengeza, vous êtes directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ici en SIG. Vous avez suivi les uns les autres, et nous allons quand même insister sur un aspect aujourd'hui avec Madame Joséphine qui est revenue sur l'enseignement, le contenu de l'enseignement au niveau universitaire, en évoquant le cours de français qui devait quand même être obligatoire au niveau d'ailleurs de classes de recrutement, à savoir le premier graduat. Mais aujourd'hui, c'est vrai, bon, dans certains instituts ou encore d'autres universités, on néglige un peu cet aspect des choses et pourtant c'est la langue du travail et c'est la langue qu'on utilisera dans la vie professionnelle.
Bon, avant toute chose, je voudrais un peu profiter pour répondre à mon prédécesseur. Lorsqu'il dit que les actions proposées par les ministres sont venues tôt, je ne le pense pas. Puisque d'abord, son excellence, le prophète Fidemba, avait pris part aux travaux de Zongo. À Zongo, c'était une sorte d'état général, là où les différents problèmes ont été débattus. Et c'est même la nouvelle loi organique a été proposée à ce niveau-là. Et puis, je pense, je suis convaincu que en prenant le commandement du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, il a quand même été basé déjà sur des recommandations existantes, puisqu'il ne faut pas chercher à réinventer la roue dès le temps où la roue a été inventée. Maintenant, concernant le cours
professeur, je ne coupe pas la parole parce que la rencontre des Zongo, ça fait, à tracer des calculs sont bons, plus de 7 mois maintenant. Alors, mais on ne sent pas l'application sur le terrain de toutes ces recommandations.
Non, déjà ceci. D'abord, la rencontre de Zongo a été faite avec un ministre intérimaire. Vous savez, lorsqu'on est intérimaire, on n'a pas le même champ d'action qu'un ministre. L'actuel, il vient à peine d'être nommé il y a presque 2 mois. Et puis la nouvelle loi organique, à ce que je sache, sera d'application à partir du 12 février, si mes mémoires ne...
Tout à fait, dans quelques jours, raison pour laquelle nous avons fait cette émission.
Voilà. Mais concernant les Français, oui, vous avez raison, puisque en fait, les Français, c'est le véhicule de connaissances. Mmh. C'est le véhicule qui nous permet de transporter les connaissances et de communiquer. Donc si ce véhicule n'est pas bon, il n'y aura pas échange de connaissances. Oui, c'est vrai, et je pense que là, nous devons un peu réfléchir pour que nous trouvions des moyens, des façons à accorder le français un peu plus de temps. Parce que vous voyez, les étudiants que nous recrutons, dès le niveau de recrutement, nous constatons que les étudiants viennent avec quand même un niveau qui est un peu bas, et même en français, donc nous devons trouver des moyens pour un peu améliorer. Voilà, là je suis vraiment d'accord avec vous. Mais moi, pour nous, en ce qui nous concerne, nous, à notre niveau, nous avons une sorte de club. Nous avons créé une sorte de club d'anglais et de français pour nos étudiants, en dehors des heures de cours normales, de pouvoir tant soit peu améliorer leur français et leur anglais.
Est-ce que la question qui a été évoquée également lors de la rencontre des Zongo autour de l'instauration ou l'installation du Conseil supérieur de l'enseignement, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une partie des solutions à tous ces problèmes qui gangrènent en fait les milieux universitaires?
Bon, là j'ai du mal à porter un jugement des valeurs judicieux puisque je n'ai pas vraiment, je ne connais pas exactement quel sera le rôle
du conseil. Mmh.
Mais ce que je sais, nous avons déjà des conseils d'administration. Mmh. Et nous devons quand même tout faire pour très bien faire fonctionner les conseils d'administration existants.
Oui, parce qu'il a été dit, si ma mémoire est très bonne, lorsque nous avons lu cette loi proposée, en fait, le conseil supérieur de l'enseignement aura comme attribution notamment aider le ministre en ce qui concerne d'abord la signature des diplômes universitaires, parce qu'on a constaté qu'il y avait un retard au niveau de la signature au sein du ministère. Il y a également cette histoire de diplômes qui doivent être homologués, il y a également des retards, il y a autant de problèmes qui devaient être gérés déjà au niveau du conseil supérieur de l'enseignement supérieur universitaire.
Bon, si tel est le cas, je trouve que c'est une bonne chose, mais je crois que tout dépend aussi de la volonté politique, puisque vous pouvez générer un procès de cette occasion pour vous dire que le professeur Kedemba, le nouveau ministre, vient en moins de 60 jours, vient de signer 15 000 diplômes. alors que ce diplôme traîne, ça fait presque 3 ans. Je pense que il y a aussi un problème de la manière de prioriser les choses, hein, de travailler. Mais si ce conseil viendra pour pallier à certaines insuffisances ou lacunes existantes, je pense que c'est une très bonne chose.
Voilà, professeur, on va revenir quand même sur une autre préoccupation des auditeurs. C'est pratiquement les phénomènes droit d'auteur qui en fait continuent à prendre de la place, hein, dans le milieu universitaire, les assistants qui imposent aux étudiants voilà les droits d'auteur. Il faut apporter 2500, et si nous allons continuer même à l'IFASIC où on demande 2500 pour les invendus, hein, pour les invendus des journaux est vendu.
Bon, je pense que cela est interdit, et surtout lorsqu'on le lit à la réussite. Hein, je pense qu'on ne peut pas conditionner la réussite à un examen par l'achat d'un syllabus. C'est des choses différentes.
Alors, comment vous gérez particulièrement l'état des étudiants autodidactes, des étudiants qui sont déjà dans la vie professionnelle et qui sont en train également de poursuivre leur cursus dans votre institution?
Bon, nous avons ici un programme de second cycle. Et généralement, les cours de second cycle commencent l'après-midi, hein, généralement à partir de 16h. Et cela permet aussi à certaines personnes qui travaillent de venir suivre les cours aussi.
Voilà. Alors, il y a Patrick Kiongoy qui a appelé de Londres, qui, en fait, a parlé de la relation directe entre le développement d'un pays et la qualité de l'éducation, qui nous pousse d'ailleurs à réfléchir sur certains points de vue avancés par de nombreux observateurs, lorsqu'ils disent que, bon, si nous avons des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur, c'est parce que l'éducation nationale devait être a été scindée en 3 parties. Aujourd'hui, nous avons d'une part l'enseignement primaire et secondaire, de l'autre côté l'enseignement supérieur et universitaire, et enfin l'enseignement professionnel. Bon voilà, vous ne trouvez pas que mis ensemble, ça pourrait donner quand même l'occasion de réfléchir une fois pour toutes?
Non, moi je ne suis pas nécessairement de cet avis-là, puisque prenez seulement le ministère que gère son excellence M. Macaire, des EPST. C'est vraiment un macro-ministère. Hein. Et je pense que le mettre ensemble, à moins que vous le mettez ensemble avec 2 vice-ministres, dont chaque ministre s'occupe d'une branche bien déterminée. Et je pense que ce sont déjà, si vous prenez même le ministère d'enseignement supérieur universitaire, dans le contexte du Congo actuel, un ministre qui gère ce ministère, c'est parmi les ministères où le problème se pose avec un niveau de complexité élevé. Où vous devez gérer rien que nos professeurs ici qui sont à 2100, et parmi ces professeurs, vous trouvez toutes sortes de personnes qui ont occupé déjà de hautes fonctions, ainsi de suite, donc c'est pas toujours facile. Moi, je pense que on peut les laisser séparer, mais pour certains dossiers, ils doivent travailler en collaboration, ils doivent avoir des commissions internationales.
Merci beaucoup, professeur. Nous vous gardons encore en ligne avant de conclure cette émission. Georges, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour, Jeff.
Alors, je disais tout à l'heure que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire annonce des sanctions pour les réfractaires à l'assainissement du milieu universitaire. Alors, Théophile Bemba l'a fait savoir au cours de la rencontre avec la communauté étudiantine la semaine dernière à l'ISC. L'autorité de tutelle estime qu'il est temps de combattre la corruption qui évolue sous les labels de la pratique de branchement, le phénomène de disparition des cotes lors des sessions, l'organisation des ordonnées du troisième cycle et la politisation des universités et autres institutions. Voilà, alors quel regard portez-vous sur cette décision?
Oui, c'est une décision qui pourrait être salutaire pour le système, mais quand on voit les systèmes d'enseignement supérieur dans l'ensemble du système congolais, ce qui se fait, c'est ce qui semble être normal. Parce que quand on voit dans l'enseignement supérieur, il y a les parents qui ont leur part de responsabilité, il y a les élèves qui ont leur part de responsabilité, il y a les enseignants qui ont leur part de responsabilité, il y a l'État qui a sa part de responsabilité. On ne peut pas seulement pénaliser l'enseignant, dire que comme si l'enseignant a travaillé dans un vase clos. L'enseignant subit les pressions des parents, subit les pressions de l'autorité, subit les pressions de toutes parts. Et quand on voit la pression dans laquelle on place l'enseignant, qui est devant les étudiants, mais quand vous voyez les conditions dans lesquelles il vit, vous ne pouvez pas. Des enseignants sont à l'arrivée de la société. Donc il faut voir le problème dans son ensemble. Il y a la répartition, la partition de l'enseignement, il y a la philosophie même de l'enseignement, voire de l'enseignement primaire. Quelle est la philosophie de base? Quelle est la finalité? L'enseignement secondaire au pays, quelle est la finalité? L'enseignement supérieur, quelle est la finalité? Comme ça, les parents ne doivent pas faire tout pour que les enfants réussissent à l'école. Il y a même les enseignants qui subissent des pressions à tel point que si un enfant ne réussit pas, son père qui est haut gradé quelque part peut faire du mal à cet enseignant. Donc il faut mettre vraiment les problèmes dans son ensemble, pas voir seulement un élément de l'ensemble qui est l'enseignant, penser que tout le mal vient seulement de l'enseignant.
Alors Léon, nous avons vu les enseignants qui se sont retrouvés à Zongo pour réfléchir. Donc si je comprends bien votre intervention, ces gens ont des rencontres. Doit faire appel aussi à d'autres partenaires de l'éducation, notamment les parents, la société civile, ceux qui observent même la société.
Oui, oui, tout le monde doit être là parce que c'est l'éducation nationale.
Nationale.
C'est l'éducation nationale parce que c'est nationale. Tout le monde doit se retrouver et chacun doit prendre l'engagement de dire non, quand mon enfant échoue, c'est que c'est bon pour cet enfant, il doit reprendre l'année. Oui,
voilà. Merci beaucoup.
On va tout faire pour que l'enfant passe ses classes et mettre l'enseignant sous pression.
Voilà. Monsieur Georges, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. Yves, vous êtes étudiant à l'UNIKIN. On va vous prendre, je crois qu'il y a d'autres auditeurs hein, qui aimeraient bien. Bon, peut-être on peut encore prendre un, mais on prend le tout dernier étudiant qui est à l'UNIKIN et pourrait nous donner quand même son témoignage. Yves, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez accepté de participer dans cette émission. Quel regard portez-vous sur la décision du ministre de pouvoir assainir le milieu universitaire et aussi de sanctionner les réfractaires à cet assainissement?
Ah oui, la décision de son excellence, monsieur le ministre, sa décision est bonne. Et je vais d'abord vous dire que moi, je suis étudiant, je suis au home, à l'université, j'habite le home. Donc, je vais parler un peu sur ce qui concerne l'environnement, donc, l'assainissement du site universitaire. Je vais partir par un exemple de notre site, dans nos homes, disons. On avait conçu les homes à l'époque, donc c'est pour loger les étudiants. C'est un exemple que je donne. Mais aujourd'hui, nous voyons que non, nos homes sont transformés en boutiques, en sites commerciaux. Donc, il y a des bars même à côté, des salles de suite. Donc, tout ça, ça constitue un peu ce qui,
voilà,
qui font que non, l'enseignement à l'université puisse maigrir. Mais concernant ce qui concerne les phénomènes, franchement,
disparition des
codes en sciences politiques et administratives, je vais passer aussi toujours par les exemples, par exemple.
Rapidement, Yves.
Oui, monsieur le journaliste. Des jours ici, j'étais en train de chercher comment retirer mes relevés des cotes du premier cycle. Donc, pour en avoir, c'est vraiment
difficile. Un parcours des combattants.
Oui, vous pouvez même payer, même vous faites même un mois, vous passez aujourd'hui, on vous dit non, passez des mails, donc l'université n'est même pas organisée. Donc, je ne sais pas.
Donc il faut repenser également les circuits d'information du côté de la paritora, de doyen, de faculté, et pour arriver au niveau de services académiques. Tout ça, il faut qu'on puisse quand même repenser. Il faut vraiment un débat entre qui pourrait réunir tous les partenaires de l'éducation. Merci beaucoup, Yves. Alors, nous excusons auprès de Maurice. Maurice, merci beaucoup, Yves. Voilà, on ne saura pas vous accorder encore la parole. Nous excusons auprès de Maurice, Arsène et d'autres nombreux auditeurs qui ont appeler, en tout cas vous êtes nombreux hein, à vouloir appeler, pour passer par ces débats citoyens aujourd'hui autour de cette thématique. Voilà, ce n'est qu'une partie remise. Demain, nous allons organiser encore un autre débat, donc n'hésitez pas à nous appeler. Alors, on revient à vous, professeur Pierre Kasengezia, directeur général de l'ISA. Vous avez suivi les tout derniers auditeurs. Voilà, comment vous réagissez et qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion par rapport à la décision du ministre et par rapport à ce qui doit être fait? Est-ce qu'il faut-il qu'on puisse accorder le bénéfice de l'urgence aux recommandations de Zongo pour qu'on arrive réellement à assainir le milieu, ou bien que faudrait-il faire?
Bon, moi je pense que les sanctions proposées par annoncées par les ministres sont salutaires.
Vous savez, lorsqu'un chef travaille, il y a des sanctions positives et des sanctions négatives. Les sanctions négatives seront adressées à ceux qui ne feront pas un effort pour procéder à l'assainissement environnemental, moral, mental, ainsi de suite. Bon, maintenant, concernant les conditions du home de Nikin, vous savez, je suis très mal placé pour porter un jugement de valeur sur ce qui s'est passé.
Donc, c'est juste un échantillon, c'est une illustration, et c'est l'image de tous les homes à travers le pays, parce que c'est aujourd'hui, dans quel état se trouve-t-il? Si nous allons à Kisangani avec village Koli, nous allons à Lubumbashi, je vais casser à part, donc c'est pratiquement, tout doit être refait.
Non, comprenez, ici j'interviens en tant que directeur général de l'ISTA. L'UNIKIN a quand même un recteur. Je pense que si le recteur de l'UNIKIN est mieux placé pour répondre à cette question-là. Moi, personnellement, je ne peux pas répondre à une question.
Alors, l'état dans lequel se trouvent les hommes à l'ISTA?
Bon, le nôtre, je ne peux pas dire que c'était un état fameux, hein, je vais être objectif.
La capacité d'accueil par rapport à...
Nous sommes en train de travailler pour les rénover. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en train de construire une nouvelle latrine et des douches pour nos étudiants. Mais nous devons reconnaître que c'est un home quand même qui date. Hein,
qui date,
voilà. Il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions le réhabiliter.
Pierre Kassengezia, vous êtes directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA SIGLE. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir contribué à ce débat citoyen aux côtés des auditeurs. À très bientôt. Voilà, je l'ai dit tantôt, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, qui n'ont pas eu la chance de passer aujourd'hui, donc nous allons nous retrouver demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien, et nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à Guy Manzangou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda et Pierrot et la Régie, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision d'Elona Moulamba. À très bientôt.